Et c'est la suite, ce jeudi, d'une semaine sur Roland Barthes dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine passée, à l'exception d'hier, en compagnie d'Éric Marty, à qui l'on doit, entre autres, l'édition des œuvres complètes ou presque de Roland Barthes, parue au Seuil comme il se doit. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie également de Meiko Takizawa, qui est doctorante à Paris 7, spécialiste du Japon dont il sera question aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'Empire des Signes, le très beau livre de Barthes sur le pays du soleil levant.
La masse bruissante d'une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l'étranger, pour peu que le pays ne lui soit pas hostile, d'une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle, l'origine régionale et sociale de qui la parle, son degré de culture, d'intelligence, de goût, l'image à travers laquelle il se constitue comme personne et qu'il vous demande de reconnaître. Aussi, à l'étranger, quel repos! J'y suis protégée contre la bêtise, la vulgarité, la vanité, la mondanité, la nationalité, la normalité. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l'aération émotive, en un mot, la pure signifiance, forme autour de moi et à mesure que je me déplace un léger vertige, m'entraîne dans son vide artificiel qui ne s'accomplit que pour moi. Je vis dans l'interstice, débarrassée de tout sens plein.
Bonjour Meiko Takizawa.
Bonjour.
Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Rebonjour, on se voit presque tous les jours cette semaine, Éric Marty. C'est un bonheur de parler avec vous de Roland Barthes. On va parler de l'Empire des Signes. Et pour cela, partir de ce très très beau texte de Barthes, lu par Anne Brissier. Sur cette langue inconnue, la masse bruissante d'une langue inconnue. En général, pour un étranger en voyage, en particulier au Japon d'ailleurs, on peut le dire d'expérience, l'expérience justement de cette langue parfaitement, profondément étrangère à l'occidental qui n'y connaît rien, est une expérience déstabilisante dont on retient un sentiment d'exclusion. Or, Roland Barthes, Éric Marty, au contraire, semble... J'allais dire presque jouir de ce caractère incompréhensible qui l'entoure, et loin de se sentir exclu, se sentir conforté dans le sentiment d'une altérité, où paradoxalement il trouve son bonheur.
Oui, vous vous rappelez, mardi, vous citiez la phrase de Barthes sur le fascisme, et on disait le fascisme, ce n'est pas ce qui empêche de parler, mais ce qui impose de parler. Et on pourrait dire que le Barthes, le Japon, c'est l'antifascisme absolu dans la mesure où rien ne s'impose à lui, où tout semble être suspendu, fait, comme il le dit, de ce mot si beau qu'il emploie si souvent, d'interstice, de rythme. Derrière, il y a une sorte d'état peut-être presque adamique.
Adamique au sens de jardin d'Éden. Voilà. Le Japon serait comme un retour aux origines.
Ah, tout à fait. Et cette langue inconnue... Mais ce n'est pas pour autant un autisme. Barthes ne se place pas du tout dans la position du sujet occidental cérébral, autiste et fermé, pas du tout. Il est en entière communication, au fond, avec le Japon, mais par les sons, par les rythmes, par les silences, par le mouvement, par le bruissement de la langue. C'est ce mot qu'on pourrait reprendre à propos du Japon.
Si Barthes, Meiko Takizawa, est occidental, il reste occidental, un occidental au Japon, c'est peut-être aussi parce que ça lui permet de préserver l'altérité et non pas de la résoudre ou de la dissoudre à l'occidental, justement, dans une vision européo-centrée du monde.
Si Barthes reste occidental au Japon, c'est parce que Barthes veut exprimer son anti-occidental.
C'est par anti-occidentalisme qu'il veut rester occidental au Japon.
Oui, c'est ça, je pense.
En quel sens vous dites ça?
L'occidentalisme revendique l'orientalisme, mais Barthes est contre l'orientalisme.
Au sens où l'Orient serait une fabrication, finalement, de l'Occident?
Oui, c'est ça, oui.
Éric Marty.
Oui, c'est ce que dit Maïko est très juste. Effectivement, on pourrait dire que Barthes ne joue pas le jeu de l'occidental, qui est toujours de croire qu'il peut se confondre avec l'autre, hein, qu'il est universel. Il maintient effectivement son occidentalisme par, en effet, anti, ou en tout cas par différence avec la pensée occidentale qui croit se trouver partout où elle est, qui croit justement à un universalisme abstrait, quelconque, qu'il pourrait occuper. Et alors, ce que disait Maïko sur l'occidentalisme, c'est très juste, parce que dès le début du texte, Barthes se distingue fortement du fantasme de l'Orient, présent chez Pierre Loti ou, comme il le dit, chez Voltaire, ou même dans la revue d'Air France, hein, qui est un Orient de pacotille. Il se distingue fortement de cela, et je crois qu'il trouve une place parfaitement originale, qui n'est ni évidemment celle de l'absorption de l'autre, ni...
celle de sa dilution dans une autre civilisation.
Tout à fait.
Il est comme un individu. Il dit ceci: l'Orient est partie intégrante de la civilisation et de la culture matérielle de l'Europe. L'orientalisme exprime et représente cette partie, culturellement et même idéologiquement, sous forme d'un mode de discours avec pour l'étayer des institutions, un vocabulaire, un enseignement, une imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles coloniaux. En reprenant implicitement, vous en parliez, Meiko Takizawa, l'idée d'Edouard Saïd, d'un Orient qui serait une fabrication de l'Occident, finalement, en reprenant cette idée, qui passe d'ailleurs par une énonciation, une séparation entre nous et eux, en reprenant cette idée-là, Roland Barthes, encore une fois, hein, ne fait pas de son occidentalisme une façon de phagocyter l'Orient, mais bien au contraire une façon de... Disons que la façon dont il se sépare de l'Orient n'a rien à voir avec la façon dont l'Occident en général se sépare de l'Orient en l'inventant, en le refabriquant.
Mmh. Oui, c'est ça. Barthes est très loin du colonialisme. Et c'est pour ça que les Japonais aiment l'Empire des Signes. Les Japonais ne pensent pas que c'est un livre du point de vue occidental. On peut partager son point de vue à l'égard du Japon.
Mais ce qui veut dire que cette démarche de Roland Barthes, Éric Marty, cette façon qu'il a donc de marquer une différence qui est une garantie d'altérité, puisqu'au fond c'est ça l'enjeu, cette démarche forcément en passe chez lui par une approche empiriste, j'allais dire presque phénoménologique des choses. Hein. Alors il le fait, il la pratique, il en est coutumier, mais alors là au Japon, son système ou sa façon de faire s'épanouit complètement, il ne peut s'en tenir qu'à ses impressions et les revendiquer comme telles. La façon qu'il a de rester respectueux des autres, c'est de ne pas chercher à les connaître, mais de restituer des impressions.
C'est très important, là. C'est parce qu'effectivement, ce que Barthes va au Japon sans savoir, sans connaissance. Et dans ce livre, il suspend précisément tout savoir sur le Japon, sur l'Orient, sur l'Asie, et se contente justement, oui, de savourer, de voir, de regarder, de surprendre des choses, des scènes, de les photographier, ou plutôt, comme il le dit lui-même, d'être photographié par le Japon. Et ça, c'est une chose aussi importante, c'est-à-dire l'espèce de passivité que suppose d'ailleurs le regard phénoménologique, hein, l'espèce de passivité corporelle, imaginaire, de la conscience dans laquelle se place Barthes et qui est donc, en effet, saisie par le Japon, saisie par le lieu, par la langue.
Il dit ceci, à un moment, il commence un chapitre en disant « Le signe est une fracture qui ne s'ouvre jamais que sur le visage d'un autre signe. » Où on a derrière une ontologie, l'ontologie barthésienne, qui est véritablement, qui s'en tient profondément, donc non seulement aux signes, mais aux phénomènes, aux apparences. Il est tellement près des apparences, Meiko Takizawa, que quand il veut surmonter une apparence, c'est une autre apparence qu'il découvre.
Oui, ce qui compte pour Barthes, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup moins de signifiés qui comptent, mais Barthes peut recevoir que les signifiants.
C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle l'empire des signes.
Parce qu'il n'y a que les signifiants, les signes...
Parce qu'il ne sait pas à quelle vérité ça correspond, tout simplement.
Oui, c'est ça, oui.
Éric Marty.
Oui, et puis il y a beaucoup de signes parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Enfin, c'est que Barthes se trouve dans un pays entièrement nouveau avec des pratiques de cuisine, d'habillement, de comportement nouveaux. Mais surtout, ce que disait Meco est très juste, c'est-à-dire que le sens se dérobe. Le sens se dérobe, il n'y a pas de signifié, il n'y a pas de sens plein aux choses. Et donc, il y a en effet un empire des signes. Et le mot empire est un mot important parce qu'à la fois, il dit la grandeur de l'espace, mais aussi l'emprise, hein, l'empire des signes. Je suis sous l'empire de l'alcool, dit-on, je suis sous l'empire des signes. Et il y a un empire des signes au sens de cette emprise dont il est en quelque sorte l'objet.
Un barthe ivre du Japon. Le Japon, ce Japon, son Japon. Ce fut, pour Roland Barthes, l'utopie du désirable. Pays bien réel pourtant et vérifiable, exactement situé à quelques heures d'avion. Mais la découverte avait été tardive, il avait déjà plus de 50 ans. Cela crée toujours une marge, quel que soit le charme de la nouveauté. Les trois séjours qu'il fit à Tokyo, en 1966 et 1967, en tout 7 ou 8 semaines, furent ainsi vécus sur l'horizon du trop tard. Une ombre se mêlait à l'horizon du voyage. Ensuite, quand on lui proposait de retrouver au moins pour quelque temps ce pays qu'il aimait, ce qu'il alléguait sans bien se convaincre, c'était le trop loin. Ce n'était pas seulement la distance kilométrique. Peut-être préférait-il que le Japon demeurât dans l'éloignement de la nostalgie. L'expérience japonaise avait été festive, heureuse, fugitive. Il n'était pas sage de vouloir la répéter, mais il convenait de la recueillir, de s'y recueillir.
Suntory Whisky garimasu. Wakarimasu ne? Kanjou komete, yukkuri to kamera o mite, yasashiku. Soshite, anata no furui tomodachi ni aou you ni. 言ってください。カサブランカのボギーのように君の瞳に乾杯。サントリータイム。
He wants you to turn, look in camera. Okay?
That's all he said?
Yes. Turn to camera.
All right, does he want me to turn from the right or turn from the left?
あの、彼の方はもう準備ができてます。それでスタートがかかった時に、カメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。どちらでいいんだよ。もう。関係ないんだからそんなもの。時間がないんだよ。ボブさん。ね?だからもう早くあなたもテンション上げてカメラ見てカメラ目線でゆっくりとね、パッションがカメラ目には。ファッションだよ。わかった?
Is that everything? I mean, it seemed like he said quite a bit more than that.
あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだから。わかる?古い友達に会うように。優しく。ジェントリーにね。そして心から湧き上がってくる。テンション。これ忘れちゃダメだよ。
Like an old friend and into the camera.
Okay.
わかった?あなたはウイスキーを愛してます。It's Suntory time. Okay?
Okay.
よーい!
For relaxing times.
Éric Marty et Meiko Takizawa sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans le cadre d'une semaine sur Roland Barthes, c'est de l'Empire des Signes de Roland Barthes que nous parlons aujourd'hui. L'Empire des Signes, dont vous rappelez, Éric Marty, que c'est un titre polysémique. On n'y avait pas pensé. L'Empire des Signes, c'est l'Empire japonais. C'est également le fait d'être sous l'Empire des Signes. Alors, on vient d'entendre, coup sur coup, un texte de Maurice Pinguet, rassemblé par Michael Ferrier. Hein, c'est un livre que vous m'avez apporté au début de cette émission, Éric Marty. Le texte Japon, qui se trouve au Seuil. Et puis, un texte de Maurice Pinguet sur Roland Barthes. Et puis, un extrait désopilant de Lost in Translation, le très beau film de Sofia Coppola, où l'on a l'expérience d'un homme qui... fait l'épreuve d'une incommunicabilité radicale. Et à cet égard, Roland Barthes dit que l'expérience de la langue étrangère permet de porter le soupçon sur l'idéologie même de notre parole. Est-ce que finalement, quand il ne comprend pas une langue, Barthes n'est pas, pour une fois, et pour son plus grand bonheur, débarrassé de cette aptitude qui est la sienne à percevoir l'impensé d'une langue, son caractère totalitaire ou fasciste, Meiko Takizawa?
Oui. Quand il parle en français, il doit absolument constituer le sens. Mais en revanche, au Japon, quand il entend quelque chose en japonais, il ne comprend pas, donc il n'est pas question de sens.
Mais voyez, par exemple, dans l'extrait du film qu'on a entendu, j'imagine que vous avez compris ce que disait le japonais.
Ouais.
Or, moi qui n'ai rien compris, Eric, je n'en sais rien, Roland Barthes, c'est sûr, n'y aurait rien compris, et en tout cas, le personnage principal n'y comprend rien. C'est très drôle parce qu'il n'y comprend rien.
Ouais.
Bizarrement, il n'y a pas d'hostilité là-dedans, d'ailleurs. Mais quand on comprend ce qui se dit, est-ce que ça reste drôle, par exemple?
Oui, ça reste drôle, mais c'est une autre chose, peur. Les Français qui ne comprennent pas, oui.
Barthes dit ceci au Collège de France. Il dit « Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer. Comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute langue est une rection généralisée. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. Or, ici, le décodage barthésien se fait aux dépens de la langue, ce qui, encore une fois, marque la singularité considérable de l'Empire des Signes. C'est comme si Barthes était enfin, j'allais dire, libéré des servitudes qu'il ne peut pas ne pas éprouver.
Oui, je crois que c'est vraiment le livre qui est l'envers total des mythologies. Dans les mythologies où justement la France est omniprésente, une France pesante, lourde, celle des années 50, qui surcharge le monde de son psychologisme, de ses idées, de son idéologie, eh bien, en effet, le Japon apparaît comme une sorte on parle de paradis, hein, mais une sorte de bain de renaissance où toute signification semble avoir disparu. Ce qui aboutit à... Alors, pour autant, Barthes n'est pas pour autant Candide au Japon.
Un peu quand même, non ?
Oui, mais pas le Candide, disons, pas le Candide de Voltaire. Il y a une forme de candeur, c'est vrai, mais une candeur qui n'est pas une candeur comique, qui n'est pas une candeur dont on pourrait se moquer.
Mais il y a aussi dans le Candide de Voltaire une ambition morale.
C'est vrai.
Comme l'ingénu de Voltaire.
C'est vrai. Hein. C'est
Ce sont des êtres qui, par leur attitude, par leur candeur, donnent des leçons de morale aux individus corrompus qu'ils fréquentent.
En ce sens, oui. Alors, en ce sens, de cette candeur-là, oui. Mais... Et cette candeur est une façon, justement, peut-être d'une ouverture, alors utopique au sens, parce que même si Barthes ne comprend pas, néanmoins, il reçoit du sens, il reçoit des sens. Et simplement, ce contre quoi Barthes se place, c'est contre le mythe de la communication. Et au fond, je dirais que le Japon est un très bon objet de cela. L'occidental, disons, ou stéréotypé, est angoissé à l'idée de ne pas pouvoir communiquer. Et le Japon apparaît comme le pays de l'incommunicable par excellence. On le comprend. Vous rappelez de ce film de Truffaut, hein, où Jean-Pierre Léo... C'est avec Jean-Pierre Léo, où Jean-Pierre Léo dîne avec une japonaise dont il est amoureux, et le dîner est totalement silencieux. Et Jean-Pierre Léo téléphone à sa femme toutes les 5 minutes pour lui dire combien il souffre précisément de ne pas pouvoir communiquer avec cette japonaise. Je crois que Barthes n'aurait pas du tout eu cette lecture que Truffaut produit dans ce film. Au contraire, il y aurait eu d'autres communications qui passeraient par les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement, je cite. Ici, le texte de l'Empire des Signes, hein, et que Barthes n'aurait pas souffert, disons, du tout, de l'absence de communication verbale, au contraire.
Vous avez parlé, Éric Marty, de l'Empire des Signes comme de l'envers des mythologies de Barthes. C'est également, et comme souvent chez Barthes, le cas en termes de saveur. C'est la raison pour laquelle on va entendre coup sur coup un extrait de l'Empire des Signes de Barthes parlant de la cuisine japonaise, comme on parlerait de peinture, et puis ensuite un petit texte extrait des mythologies sur la cuisine ornementale. Ça n'est pas du tout la même ambiance ni la même saveur, justement. Écoutez.
De la peinture, la nourriture japonaise prend encore la qualité la moins immédiatement visuelle. La qualité la plus profondément engagée dans le corps, attachée au poids et au travail de la main qui trace ou couvre, et qui est non la couleur mais la touche. Le riz cuit, dont l'identité absolument spéciale est attestée par un nom particulier qui n'est pas celui du riz cru, ne peut se définir que par une contradiction de la matière. Il est à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat. Il est le seul élément de pondération de la nourriture japonaise, antinomique à la nourriture chinoise. Il est ce qui tombe, par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. Ce qui arrive sur la table, serré, collé, se défait d'un coup de la double baguette, sans cependant jamais s'éparpiller. Comme si la division n'opérait que pour produire encore une cohésion irréductible. C'est cette défection mesurée, incomplète, qui, au-delà ou en deçà de la nourriture, est donnée à consommer.
Dans la cuisine ornementale, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé. On s'ingénie visiblement à glacer les surfaces, à les arrondir, à enfouir l'aliment sous le sédiment lisse des sauces, des crèmes, des fondants et des gelées. Cela tient évidemment à la finalité même du nappé qui est d'ordre visuel. Et la cuisine des fiches cuisines d'elle est une pure cuisine de la vue qui est un sens distingué. Il y a dans cette constance du glacis une exigence de distinction. Mais surtout, le nappé prépare et supporte l'un des développements majeurs de la cuisine distinguée, l'ornementation. Les glacis d'ailes servent de fond à des enjolivures effrénées, champignons ciselés, ponctuation de cerises, motifs au citron ouvragé, épluchures de truffes, pastilles d'argent, arabesques de fruits confits. La nappe sous-jacente veut être la page où se lit toute une cuisine en rocaille. Éric Marty et Deikome Takizawa sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour parler du Japon et de l'Empire des Signes de Roland Barthes. Alors on vient d'entendre coup sur coup donc deux versions de la cuisine chez Roland Barthes. Une épure absolue quand il parle du riz et en revanche une pesanteur, une grâce ou une graisse plus exactement quand il parle des fiches cuisine de elle. Est-ce également en termes de saveur qu'il faut prendre la mesure de la différence entre l'Empire des Signes et les mythologies, Meiko Takizawa?
Concernant la nourriture, Barthes apprécie le plat japonais parce que il n'a pas fixé le plat tout fait comme le beefsteak avec des frites.
Le fameux steak frites des mythologies, ouais.
Barthes aime la cuisine japonaise parce que le plat se fait devant les clients et c'est la préparation qui compte et on mange en même temps que ça prépare. C'est un peu, ça correspond à sa pensée sur le roman, la préparation du roman.
De la même façon, d'ailleurs, quand il parle de l'épluchage d'une anguille ou du dépeçage d'une anguille, je crois qu'il compare le couteau du cuisinier à une plume, Éric Marty.
Oui, c'est un texte, au fond. Le plat japonais, c'est au fond, c'est le texte, même peut-être par excellence, puisque il est fait, comme disait Meiko, il est fait d'opérations innombrables, il est multiple, il n'a pas de centre, et ça, c'est une chose très importante. D'une part, et l'opposition que disait Meiko est importante entre d'un côté la cuisine française, où on prépare ça dans la cuisine opposée à la salle à manger, alors qu'au Japon, effectivement, on mange ce qu'on prépare presque sous nos yeux. Mais il y a aussi, il n'y a pas seulement cette opposition-là, il y a d'autres oppositions, l'opposition notamment entre une cuisine où le plat a un centre et fortement centré, et le plat japonais, où tout est décentré.
Alors,
on va
parler du décentrement, justement, voilà. de décentrement ou de l'excentrement, quand il parle des villes idéogrammes avec leur centre vide, par lesquels Barthes, d'ailleurs, désigne la gare. Mais avant cela, plus encore qu'une cuisine décentrée, est-ce que ça n'est pas tout simplement une cuisine qui ne mélange pas, en un sens, les aliments, alors que l'Occident les fond les uns dans les autres? Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'éloge que fait Barthes de la cuisine japonaise, derrière cette crudité dont il vante la saveur, dont il restitue la saveur en artiste, en peintre presque, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, vous avez parlé du roman, de la fabrication d'un roman selon Barthes, mais Kotakizawa, est-ce qu'il n'y a pas également derrière ça le goût de Barthes pour le fragmentaire?
Ah, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, les nourritures japonaises sont coupées et les Japonais les pensent par les baguettes, c'est ce que Bart dit. Oui, donc ça correspond au fragment, oui, c'est sûr.
Et quand il parle du riz, hein, il dit « le riz cuit ne peut se définir que par une contradiction de la matière, à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat, il est ce qui tombe par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. » Alors il parle du riz comme l'antithèse du pain, et en même temps sa démarche ressemble à s'y méprendre, à ce que Ponge lui-même pourra dire du pain dans le parti pris des choses, c'est-à-dire une vraie phénoménologie de l'aliment.
C'est très bien de parler de Ponge, parce qu'il y a un côté, y compris dans certaines mythologies, il y a aussi déjà un côté Ponge, dans la manière dont Ponge parle d'un cajot, parle d'une orange. Bart peut parler de la lessive, mais au fond, il y a un même parti pris des choses chez Bart et chez Ponge. Et c'est tout à fait juste de faire allusion à Ponge ici, dans la description du riz et de l'opposition que fait avec le pain.
Écoutons d'ailleurs, oui. Ponge sur le pain, c'est Camille, oui, Lugan qui a eu l'idée de cette association. Mmh. Je dois dire que c'est vraiment bien vu. La surface du pain, donc c'est Ponge qui écrit, la surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallée, crête, ondulation, crevasse. Effectivement, un texte comme celui-là, Meiko Takizawa, ressemble à ce que Barthes est capable d'écrire dans l'Empire des Signes, qui est un poème finalement.
Oui, oui. Le style de l'écriture dans l'Empire des Signes, c'est très élégant. Oui, ça ressemble un peu au poème. C'est fragmentaire. Et chaque fragment sont très beaux. On qualifie comme ça, toujours. Ouais.
C'est absolument magnifique, hein, ouais. L'Empire des Signes. Il faut le dire. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en général, on fait de ce livre une œuvre périphérique de Barthes. C'est comme si on la situait à l'étranger du travail de Barthes, alors que c'est, j'allais dire, sans être une œuvre centrale, c'est une œuvre qui en dit long, justement, sur l'expérience que Barthes peut faire de ses propres méthodes, de ses propres procédures, Éric Marty.
C'est un livre décisif, effectivement, très important, parce que d'abord, Barthes, avec ce livre, disons, s'émancipe, je crois, beaucoup de la position universitaire, de la position du chercheur, de la position, disons, de l'intellectuel, et invente aussi un objet matériel qu'est le livre. Ce livre qui a été publié par Skira en 70, c'est un livre magnifique dans sa composition, dans sa forme même, dans le jeu que Barthes fait entre l'imprimé, la graphie, les dessins, les photos, les images. Et il y a réellement Barthes était aussi un artisan de ce livre. Il aimait beaucoup penser, halluciner, voir le livre tel qu'il allait devenir. Et donc, c'est un tournant, cet Empire des Signes, aussi bien par l'écriture, mais aussi par la conception de l'objet même qui extrait Barthes, disons, du champ un peu insipide de la position universitaire. Et en ce sens-là, Barthes est vraiment Barthes écrivain, tout à fait.
Ça l'exclut de la position universitaire, c'est-à-dire ça l'exclut également des rapports de pouvoir. Hein. Pour mémoire, sa leçon inaugurale de son cours au Collège de France, quand il dit « parler et à plus forte raison discourir », on en avait parlé ensemble, Éric Marty, justement, mardi dernier, ce n'est pas communiquer, c'est assujettir. Toute la langue est une rection généralisée, dès lors qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. Donc ici, pour Barthes, c'est une façon de sortir de l'université et également sortir du rapport de force qui va avec sa conception du pouvoir. Meiko Takizawa.
Oui, on dit souvent que le séjour au Japon et pour Barthes a marqué le tournant parce qu'il a découvert son propre corps, le plaisir du texte pendant qu'il était au Japon.
Mais c'est quand même très paradoxal, vous ne trouvez pas, de découvrir le plaisir du texte dans une civilisation et au milieu d'une langue à laquelle on ne comprend rien.
Oui, c'est parce que il ne comprend rien, le plaisir c'est paradoxal, mais parce qu'il ne comprend rien, c'est le corps qui va surgir.
Éric Marty.
Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que l'incompréhension, la difficulté de compréhension n'est en rien un obstacle. Et Barthes se moque justement aussi de non seulement de ne pas comprendre, mais de ne pas savoir, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire d'être en position de non savoir. Et il le dit souvent.
Il est en position de saveur.
Voilà. Et de recherche. Et de recherche. Pour chercher, il faut ne pas savoir. Et donc, voilà, c'est une recherche, non pas du temps perdu, c'est une recherche de signes, une recherche d'un espace particulier, de forme, de corps aussi. Parce que le plaisir du corps est très présent dans ce livre, pas seulement par la nourriture, qui joue un rôle très important, mais pas seulement. Il y a aussi le plaisir érotique, beaucoup de choses sur les visages, sur les yeux, sur le théâtre japonais. Il y a, donc le plaisir est omniprésent dans ce livre.
Alors, il y a aussi, par exemple, vous avez parlé d'érotisme, il y a aussi ce qu'il dit du sexe. C'est très bref, mais c'est assez bien vu. Il dit... Au Japon, dans ce pays que j'appelle le Japon, c'est très intéressant comme parenthèse d'ailleurs, la sexualité est dans le sexe, non ailleurs. Aux États-Unis, c'est le contraire. Le sexe est partout, sauf dans la sexualité. Meiko Takizawa.
Ah.
Un commentaire.
Aujourd'hui, le Japon, ça est devenu un peu comme États-Unis.
Vous voulez dire que le sexe est partout, sauf dans la sexualité?
Oui, c'est ça.
Bon, au sens barthésien du terme. Donc, ouais. Revenons sur ce que vous disiez, Éric Marty, tout à l'heure, de ce décentrement. L'un des passages les plus exemplaires, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de barthésianisme, d'ailleurs.
Oui, pourquoi?
On parle de cartésianisme, alors parlons de barthésianisme. C'est ce passage intitulé « Centre-ville, centre-vide », où il compare les villes à des idéogrammes, à une sorte de texte permanent, de textes continus, dont le centre est vide, c'est la gare, à la différence des villes de l'Occident, dont le centre est toujours plein. En Occident, c'est au centre, dit-il, que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation, la spiritualité, l'argent, la marchandise, la parole, la vérité sociale, alors qu'au Japon, il n'y a pas de centre. Restons un instant sur cette absence de centre qu'il repère dans la géographie des villes comme dans la forme des plats.
Alors, dans le cas de Tokyo, il y a aussi le vide du palais impérial, c'est-à-dire qui est réellement vécu comme un lieu qu'on contourne, qui est un espace, vide. Et c'est une chose qui est très présente chez Barthes. Par exemple, dans le Surracine, il parle beaucoup de la chambre ou du palais vide, finalement, qui est le lieu aussi hors scène, et dont la tragédie est l'antichambre, en quelque sorte. Et ici, au Japon, ce centre vide, centre livre, est aussi une manière de produire du texte.
Vous avez dit centre livre,
c'est un lapsus,
centre vide, centre ville.
C'est un lapsus, mais un bon lapsus, comme souvent d'ailleurs, où il dit « la ville est un idéogramme, le texte continue ». Et effectivement, le vide est ce qui autorise au texte de proliférer. Mais ce que je voudrais peut-être dire là-dedans, c'est que Barthes, là, aussi est dans la pensée de l'époque, c'est-à-dire dans l'idée de l'antimétaphysique, de faut se débarrasser de l'homme, du moi. Il le fait à sa manière, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas philosophiquement, il ne le fait pas dogmatiquement, mais il le construit tout de même une pensée qui est celle qui rejoint beaucoup de discours de l'époque. Alors, juste un petit exemple, c'est la photographie du jardin zen, qu'il commente.
Rappelons que l'Empire des Signes est truffé de photographies choisies et commentées par Roland Barthes.
Voilà. Et il écrit « Jardin zen, nulle fleur, nul pas, où est l'homme ? Dans le transport des rochers, dans la trace du râteau, dans le travail de l'écriture. » Donc cette espèce d'évaporation de l'homme, ou d'évaporation de l'âme, ou du moi, et pour Barthes, une sorte d'utopie et de désir qui s'inscrit malgré tout, faut le dire, dans une pensée très forte très forte dans ces années 70.
C'est-à-dire qu'on est dans une logique de l'individu qui n'est pas un sujet.
Voilà.
L'évaporation de l'homme est également une condensation de l'individu en impression, en caractère, en chose vue, en expérience, Meiko Takizawa.
Oui, oui. L'évaporation des hommes, ça... oui, c'est un homme occidental qui évapore au Japon.
Il faut rester, on en a parlé mardi dernier, Eric Marty, il faut revenir sur ce que Barthes pouvait dire du haïku et du rôle justement que joue le haïku chez lui et ce qu'il peut en dire ici également. Alors on a pris quelques haïkus de Reverdy. Paul Reverdy, et puis que je vous propose d'entendre, lu par Anne Brissier, suivi d'un commentaire de Barthes lui-même, extrait de quand il parle de l'Empire des signes, quand il explique que le haïku ne veut rien dire et qu'il appelle la convoitise de sens. C'est toujours Anne Brissier qui lit ce texte. Écoutez.
En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d'or. Et j'écrivais dans un grenier où la neige en tombant par les fentes du toit devenait bleue. Sur chaque ardoise qui tombait du toit, on avait écrit un poème. La gouttière est bordée de diamants, les oiseaux les boivent. Le haïku fait envie. Combien de lecteurs occidentaux n'ont pas rêvé de se promener dans la vie, un carnet à la main, notant ici et là des impressions dont la brièveté garantirait la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur. Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, et c'est par cette double condition qu'il semble offert au sens, d'une façon particulièrement disponible, serviable, à l'instar d'un hôte poli qui vous permet de vous installer largement chez lui, avec vos manies, vos valeurs, vos symboles. L'absence du haïku appelle la subordination, l'effraction, en un mot, la convoitise majeure, celle du sens. Ce sens précieux, vital, désirable comme la fortune, le haïku, débarrassé des contraintes métriques, semble nous le fournir à profusion, à bon marché et sur commande. Dans le haïku, dirait-on, le symbole, la métaphore, la leçon ne coûtent presque rien, à peine quelques mots, une image, un sentiment. Là où notre littérature demande ordinairement un poème, un développement ou, dans le genre bref, une pensée ciselée, bref, un long travail rhétorique. Aussi, le haïku semble donner à l'Occident des droits que sa littérature lui refuse, et des commodités qu'elle lui marchande. « Vous avez le droit, dit le haïku, d'être futile, court, ordinaire. Enfermez ce que vous voyez, ce que vous sentez dans un mince horizon de mots et vous intéresserez. Vous avez le droit de fonder vous-même et à partir de vous-même votre propre notable. Votre phrase, quelle qu'elle soit, énoncera une leçon, libérera un symbole. Vous serez profond, à moindre frais. Votre écriture sera pleine. »
Eric Marty, Meiko Takizawa, il y a beaucoup de choses hein, sur ce que Barthes dit du haïku. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que Barthes écrit beaucoup sur les formes brèves, que c'est là qu'il est en général le plus long, justement. Deux petites remarques, peut-être. Est-ce qu'on peut comparer ce qu'il dit du haïku par rapport au poème à l'occidental, à la comparaison qu'on a faite tout à l'heure entre le riz japonais, la légèreté, la blancheur granuleuse du riz, et la cuisine grasse et nappée des fiches cuisine de elle. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, je voudrais qu'on reste un peu dessus tout à l'heure, c'est ce rapport qui est fait chez Barthes entre le vide et le plein. Dans le premier texte qu'on a lu, il dit « Je vis dans l'interstice, débarrassé de tout sens plein ». Or, ici, avec le haïku, il dit « Vous serez profond à moindre frais, votre écriture sera pleine ». Et c'est le même qui vante dans les villes cette caractéristique qui est le vide, le centre vide, ou bien les espaces vides. Alors, juste, commençons par la différence entre le haïku et les poèmes. Est-ce qu'elle reconduit cette différence entre le riz et les plats en sauce, Éric Marty?
Alors, ce qui est frappant, c'est que Barthes parle très peu de poésie française ou occidentale, très peu. Et il fait des références, il parle, par exemple, dans le cours sur la préparation du roman, il parle de Rimbaud, mais il parle des lettres de Rimbaud, où il parle de la vie de Rimbaud, il ne cite pas les poèmes de Rimbaud. Et au fond, la seule poésie qui l'intéresse, et la seule poésie dont il n'a jamais parlé dans son œuvre, c'est la poésie japonaise et le haïku. Donc, il y a une exclusion de sa part du corpus poétique français. Et en ce sens, cette exclusion vaut pour une situation très simple. Il n'est pas appelé, il n'est pas sensible, au fond, à la poésie. Sauf peut-être Ponge, je pense que quelqu'un comme Ponge a une écriture très littérale et donc qui peut l'intéresser. Mais Barthes supporte très mal, au fond, l'emphase poétique, la métaphore, l'hyperbole. Toutes les traces, justement, de la génialité poétique, ou la poétique, et il est au contraire fasciné par la littéralité.
Il préfère la concision au lyrisme.
La concision totale du haïku.
Alors, le paradoxe, encore une fois, il faut revenir là-dessus, c'est que biographiquement, Éric Marty, vous le savez mieux que tout le monde, mais Barthes, au fond, ne parlait... Alors, truffait ses cours de mots étrangers, mais ne parlait couramment qu'une seule langue, c'est-à-dire le français.
Oui, et en même temps, donc, il a un rapport au français très, très, très singulier, à la fois très amoureux de la langue française. Il y a réellement un amour de la langue de la part de Barthes. Parallèlement, le champ poétique semble être exclu de cet amour de la langue. Peut-être parce que c'est une langue trop artificielle, trop superlative peut-être. Il y a une sorte de lyrisme. Voilà, je crois que c'est le lyrisme français poétique qui ne supporte pas, qui le supporte mal.
Mais écoute, Akizawa, comment est-ce qu'on aime ce livre? Je vous repose un peu la même question que tout à l'heure, un peu différemment quand même. Ouais. Comment est-ce qu'on aime ce livre, L'Empire des Signes, quand, d'une certaine manière, on connaît l'envers du décor, dont il ne décrit que la surface, dont il ne peut décrire que la surface, puisqu'il n'a pas accès à son secret, à ses mécanismes, à ses mystères, il doit s'en tenir à une phénoménologie du Japon. Quand on a accès à l'autre aspect des choses, à ce dont Barthes est privé, ce dont il est exclu, comment aime-t-on ce livre? Comment est-ce qu'on se représente ce livre? Est-ce qu'on se dit, voilà un homme qui rêve à partir d'une civilisation qu'il ne connaît pas? Ou bien voilà un homme qui, paradoxalement, sans rien y connaître, dit des choses pertinentes?
Ce qui est important, c'est que le Japon, les Japonais, ne sont pas l'objet d'analyse pour Barthes. C'est plutôt Barthes qui s'analyse.
Mais en même temps, ce qu'il dit du Japon, est-ce qu'il dit quelque chose du Japon ou est-ce qu'au fond, il ne parle que de lui?
Les deux, peut-être, oui. Et ce qui m'étonne, c'est que Barthes, sans connaître grand-chose sur le Japon, il dit des choses très, très justes. Par exemple, concernant le haïku, j'ai lu un article de traducteur anglais qui dit que c'est la forme qui sert le poème, mais c'est pas correct pour les Japonais. Mais ce que dit Barthes sur le haïku, c'est la brièveté qui compte, c'est l'insignifiance, ça va pour les Japonais.
Alors, je voudrais puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission, je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce qu'il dit du vide et du plein. J'arrive pas à comprendre, en vérité, après avoir lu L'Empire des Signes, qui fait partie d'ailleurs de ces livres de Barthes qu'on peut lire de A à Z, contrairement aux conseils que Barthes lui-même donne. D'ailleurs, on le lit sans difficulté, on peut aussi le prendre par le milieu. Mais en le lisant, il y a des occurrences de la plénitude. Il parle du haïku comme d'une écriture pleine, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il parle, mais en même temps, il se dit lui-même comme vivant dans l'interstice, débarrassé de tout sens plein. Alors, que recherche-t-il? Est-ce le vide? Est-ce le plein? Qu'aime-t-il dans les villes? Est-ce le foisonnement, l'exubérance, ou est-ce au contraire le fait qu'il y ait un centre vide? Barthes est-il du côté du vide ou du plein, si j'ose dire, quand il parle du Japon? C'est une ambivalence qu'on retrouve avec le riz lui-même, dont on ne sait pas s'il apprécie la légèreté ou le granuleux, justement. Éric Marty.
Alors, le mot vide est sans doute le mot qui revient le plus souvent dans l'Empire des signes. Hein, donc, signe vide, la ville, centre vide. Enfin, le mot vide est omniprésent. Mais justement, peut-être que Barthes se méfie un petit peu de ce que le mot vide peut créer comme métaphysique du néant. Et pour ne pas justement chuter dans un excès de vide qui aurait cette dimension métaphysique, je crois qu'il modifie cette notion de vide en lui ajoutant des subtilités, des nuances, qui sont celles précisément de l'interstice, comme vous l'avez indiqué, du cerne, la fente. C'est un mot qui revient aussi très souvent à propos des yeux. Des yeux, il y a un très très beau chapitre dans la médecine qui s'appelle « La paupière », où Barthes décrit avec une sorte de lecture quasiment ethnologique l'œil oriental, l'œil japonais, et ce qui le fascine, c'est précisément la fente que constitue l'œil, par opposition justement au regard à l'œil occidental qui a un centre, qui exprime l'âme, qui renvoie une intériorité, alors qu'il y a une sorte de platitude, de surface de l'œil, entre guillemets bridé, qui fascine Barthes. Donc je crois qu'en effet, le vide est une catégorie que Barthes manie beaucoup, mais en s'en méfiant peut-être un petit peu et en y ajoutant des éléments, disons, qui restreignent ce vide.
Comme dans la phénoménologie, le problème, c'est celui de la corrélation, de la rencontre entre un sujet et un autre. Mais les modalités de cette rencontre passent ici par un déchiffrage qui doit intégrer d'autres logiques de codage que les logiques occidentales. Empire des signes ? Oui, dit Barthes, si l'on entend que ces signes sont vides et que le rituel est sans Dieu. Machio aruku kokoro karuku dare ka ni aeru kono michi de kawaii kimi ni koe o kakete konnichiwa boku to yukimasho oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées itsumo nani ka suteki na koto ga Anata o matsu yo o Champs-Élysées Kimi o tsurete asobi ni yuko Minna ga atsumaru ano klabu Gita o hiite asa made uta o Merci Éric Marty, Meiko Takizawa. Je renvoie une fois de plus, hein, comme tous les jours, l'auditeur aux œuvres complètes de Barthes parues au Seuil sous votre direction, Éric Marty. Et je recommande vivement la lecture et la dévoration de L'Empire des signes de Roland Barthes, disponible dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire dans toutes